Le salaire de l'espoir, c'est le nom que Sylvain Brown a donné à l'économie informelle, celle qui maintient d'ordinaire dans la précarité. Pour sa série en 10 volets, le réalisateur des Artisans du changement s'est basé sur des expériences réelles qui nous forcent à nous interroger sur la meilleure façon de concilier l'économie, l'environnement et les valeurs sociales. Des propos recueillis par Pascal Marcaggi.
Au Burkina Faso, l'agriculture est principalement familiale. Elle permet d'assurer la base de l'alimentation. Il est rare que l'on puisse vendre des excédents. La priorité, c'est d'assurer des réserves suffisantes pour l'année à venir. Au moment des récoltes, tout le monde est au champ. À Boromo, Seri Yulu et sa famille ne font pas exception. C'est le point culminant de la saison. Lorsque la récolte sera mise au grenier, il pourra se consacrer à sa deuxième occupation, la maçonnerie. Au Burkina Faso, à la saison sèche, on en profite pour réparer ou construire sa maison.
Artisan du changement, Sylvain Brown, artisan, c'est parce qu'on fait les choses comme un artisan.
Oui, au niveau du terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas des artistes, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des ingénieurs. Comme on dit, on a les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que le changement, c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire. On n'a pas forcément besoin de compétences particulières, mais surtout d'une motivation particulière. Et puis dans artisan, moi, il y a le côté de l'amour du travail bien fait, d'aller jusqu'au bout des choses.
Vous, vous éprouvez le besoin de montrer ces artisans?
Ça nous a semblé même nécessaire. Enfin, on voulait pas être donneur de leçons. On voulait montrer que le développement durable, enfin, ce qu'on appelle le développement durable, hein, le mot est un peu galvaudé, mais c'est qu'il existe une possibilité de continuer à vivre et survivre sur la planète, plus que survivre, même de trouver la vie vachement intéressante dans le futur, si on prend les choses dans le bon sens. Ça, c'est le développement durable. C'est repris précisément par des penseurs. Moi, les penseurs, je veux bien les croire, mais il fallait qu'on aille sur le terrain et surtout qu'on voit des réalisations concrètes, du début jusqu'à la fin. Est-ce que ça marche en vrai?
Les trois premiers exemples que le spectateur à l'UNESCO a eu la chance de voir, quand est-ce que le téléspectateur pourra les voir?
Il y a plusieurs canaux de diffusion en France. Il y a Ushuaïa TV, je crois que c'est tous les mercredis soirs en prime time, et sur TV5 Monde. Alors, il y a eu deux saisons sur TV5 Monde, sur les canaux français, les chaînes télévisées, enfin sur l'espace français, je crois que c'est tous les samedis soirs. Et sur l'espace international, ils ont la chance de regarder la deuxième saison.
Vous en avez un qui se passe au Sénégal, La Laiterie du Berger, vous avez La Voûte Nubienne, vous avez le Pérou avec les recycleurs qui ne sont plus considérés eux-mêmes comme des rébus, comme des détritus. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous êtes entré ensuite en contact avec eux?
Alors pour les choisir et pour les trouver, on les a simplement cherchés. Parce qu'ils étaient là, ils existaient. Le web, certaines agences, les réseaux qu'on s'est formés au fil du temps, parce qu'on était, on est devenu à la fois très attentif à ce genre d'expérience ou d'expérimentation. Après, c'est assez simple de rentrer en contact avec eux, parce que notre objectif, et je pense qu'ils l'ont bien compris, c'était absolument pas d'en faire des héros, mais de pouvoir donner une vraie ampleur, un petit coup de pouce, un petit coup de lumière sur leurs actions. Ça fait plaisir à tout le monde et très souvent, ça les aide aussi localement à donner un peu plus d'impact au niveau des politiques, au niveau des médias, à ce qu'ils sont en train de faire.
Comment est-ce que vous avez filmé, par exemple, La Laiterie du Berger au sud du Sénégal?
On les a filmés comme on les a tous filmés, c'est-à-dire que on arrive, on se précipite pas, même si on a peu de temps. Déjà, on essaye de tout comprendre. Alors, pour tout comprendre, il faut beaucoup parler, faire connaissance, il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on nous ouvre les portes. Et La Laiterie du Berger, Bagoré Batili, c'est vraiment quelqu'un de super. On a tout de suite, on s'est très très bien entendu. On s'est très bien entendu avec le docteur Ya. Et puis, avec tous les gens, je crois que c'est le troisième soir où, avec le gardien de la laiterie, on est allé chez lui, on a mangé avec ses enfants, on a pu discuter. Ce qui fait qu'après, très rapidement, plutôt que d'aller chercher forcément l'information, on nous la propose et puis nous, on est là pour ne pas trahir le message et pour essayer de donner une vision le plus juste possible, sans message particulier, de ce qui se fait. Parce qu'on pense que c'est quelque chose de pas mal et que si ça pouvait être reproduit, ça serait même super.
80% du lait consommé au Sénégal est jusqu'à présent importé et détaxé, hein, c'est la règle de l'OMC, pendant qu'on aurait pu produire du lait sur place. À chaque fois, on a l'impression surtout qu'on soulève un caillou et qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Une escroquerie.
Disons que, oui, on peut parler d'escroquerie. Le problème, c'est que nous, on est allé chercher des solutions à des problèmes qu'on a nous-mêmes posés. L'aberration, elle est là. C'est-à-dire que ces gens-là vont œuvrer, vont mettre à la limite toute leur vie, toute leur énergie à résoudre des problèmes qu'on aurait très très bien pu ne pas poser. C'est le système qui veut ça. Alors, une escroquerie, en ce qui concerne le Sénégal, On ne pourrait pas dire ça, mais c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a certains intérêts financiers de très très haut niveau qui trouvent plus intéressant d'importer du lait d'Amérique latine ou d'Europe, du lait lyophilisé qui va être ensuite transformé au Sénégal. C'est bien plus facile que de mettre en place une filière lait dans un contexte de brousse, avec des problèmes sanitaires. Voilà, c'est aussi une question de facilité et évidemment derrière de gros sous.
Idriss Asso est président d'une coopérative laitière dans la communauté rurale de Mban, non loin de la frontière mauritanienne. Pendant longtemps, son lait n'a servi au mieux qu'à alimenter les jeunes veaux.
Même s'il y a de quarantaine de vaches, de laitières aussi, on ne l'utilise pas parce qu'on n'a pas là où on va mettre du lait. Il n'y a pas le marché. C'est pour cela que quand il y a même trop de lait, on l'obligeait de les verser dans les rivières.
Il n'existe pas de filière du lait au Sénégal, bien qu'il y ait suffisamment de vaches. C'est en partant de ce constat qu'un jeune vétérinaire, Bagoré Batili, a eu l'audace de créer une laiterie à Richartol, à la lisière de la Brousse. Il doit structurer toute la chaîne de production laitière, de la traite jusqu'au yaourt. Il faut donc tout inventer, tout créer. Au Sénégal, plus de 80% du lait est importé d'Europe et d'Amérique. Ce marché est aux mains d'une poignée d'industriels qui, grâce aux règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ne paie pas de taxes douanières. Résultat, un litre de lait français se vend moins cher qu'un litre de lait sénégalais.
Jusqu'à présent, les exemples que vous avez pris, il y a eu à un moment donné à chaque fois une aide, ne serait-ce que mentale extérieure. Est-ce qu'il faut toujours un élément extérieur pour que les gens prennent en main leur destinée?
Un élément extérieur peut être un élément déclencheur, qui est simplement, qui peut être du constat. Albina Ruiz, qui vient de sa jungle, qui débarque à Lima et qui ne comprend pas pourquoi dans le quartier pourri dans lequel elle vit, les poubelles s'entassent. Déjà, dans la jungle, les poubelles ne s'entassaient pas. Pourquoi on ne vient pas les ramasser? Pourquoi on n'est pas des citoyens comme les autres? Là, on lui répond, non, c'est un quartier pauvre. Et puis les pauvres aiment être sales. Elle n'a juste pas compris pourquoi on pouvait lui dire une chose pareille. Elle faisait partie de ces pauvres. Elle n'était pas forcément quelqu'un qui adorait la saleté. Et c'est devant ce constat qu'elle s'est dit, non, on va leur montrer que non, les pauvres ne sont pas sale, on va leur montrer qu'on est capable de payer pour un service, à condition qu'on ne se fasse pas avoir là-dessus. Et puis que finalement, au fil de sa réflexion, elle en est arrivée à dire, mais attendez, ces gens qui recyclent là, non, ce ne sont pas simplement des recycleurs qui viennent nous piquer nos poubelles, ce sont des gens qui vont trier les matériaux, les recycler, finalement ce sont des personnes qui vont aider, entre guillemets, la planète. Ils sont mal organisés, il leur manque des structures, il leur manque une certaine éducation financière. Ça coûte rien de leur donner, en tout cas pas grand-chose. Et puis on va les rendre autonomes. Parce que c'est ça qui est important sur le point commun vraiment entre tous ces artisans du changement, c'est que toutes les actions qui sont entreprises, c'est pas pour les asservir, en tout cas pas pour asservir le cercle dans lequel cette action est mise en place, mais c'est pour vraiment rendre les gens autonomes, à la fois au niveau de leur esprit, et puis aussi une autonomie financière, tout en leur mettant toujours en avant l'idée qu'ils habitent sur Terre, dans un environnement qu'ils se doivent forcément de respecter, parce que détruire l'environnement, finalement, même si on le remet d'un point de vue économique, ça coûte cher. Et ces gens-là n'ont pas les moyens de ne pas respecter l'environnement.
Et c'est à Ganges, un petit village des contreforts des Cévennes, en France, qu'un maçon, Thomas Granier, l'a tout d'abord imaginé. Sur les conseils d'un ami, il est venu l'expérimenter à Boromo, il y a aujourd'hui plus de 10 ans.
J'avais depuis très longtemps dans la tête l'idée de faire un essai sur la capacité qu'on a à construire une voûte sans coffrage. Tout de suite, moi, j'ai eu l'idée que ça pouvait être une vraie alternative architecturale pour le plus grand nombre.
Bon, au début, comme moi, je n'ai jamais vu ça. Bon, je le suis, mais je ne sais pas comment ça va devenir. C'était un truc que nous, on n'a jamais vu ça, donc...
Construire sans bois ni tôle et sans coffrage, des maisons qui soient accessibles financièrement à l'ensemble des populations rurales africaines, c'est le défi que Seri Youlou et Thomas Granier sont déterminés à relever ensemble.
La voûte nubienne, ça c'est une initiative française pour faire redécouvrir une technologie qui venait en fait de l'Afrique.
Alors c'est une vraie technologie africaine remise en place par un Français qui n'a pu le faire que parce qu'il s'est appuyé sur des Africains. C'est-à-dire qu'on est dans un véritable échange nord-sud. Il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas la bonne idée qui vient du nord qui est appliquée au sud. C'est une technique qui vient du sud, qui est particulièrement adaptée à l'Afrique. Et c'est un maçon français, oui, qui a eu l'idée d'essayer de la mettre en place, en tout cas de mettre en place une méthode pour que cela profite aux populations rurales qui en manquent le plus. Et c'est une technique qui a plus de 3000 ans. Ce qu'il y a d'intéressant dans leur méthode, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on en est au point où les paysans doutent de cette technique ancestrale, préfèrent mettre des moellons avec de la tôle dessus parce que c'est solide, ça se paye plus cher parce que c'est importé. Mais comme aujourd'hui il n'y a plus de bois, en tout cas on peut plus ramasser du bois, qu'il n'y a pas les moyens de mettre du moellon, eh bien eux ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent des personnages clés. C'est-à-dire que dans un village, ils vont construire une voûte. Et puis au fil du temps, on va voir que la voûte, eh ben, on est vachement mieux à l'intérieur, que ça coûte bien moins cher à construire et puis que ça tient. Même quand il pleut. Alors après, il n'y a plus une voûte, mais il y en a deux, il y en a trois. Et dans le même temps, ce sont les gens du village qui vont le construire et qui vont petit à petit devenir des techniciens de la voûte. Il y a 5 degrés, du niveau 0 au niveau 5, où on va être l'apprenti qui fait les petites briques au début jusqu'au chef de chantier. Il y a aussi une création d'emploi. C'est un cercle vertueux extrêmement intéressant et surtout complètement approprié à l'Afrique.
Les prochains artisans du changement que vous avez filmés, on va en voir combien au total ?
Au total, on est allé tourner 20 heures de programme, donc 20 documentaires. Dans chaque documentaire, on a 3 exemples qu'on est allé chercher un peu partout sur la planète, dans des secteurs économiques différents, à des échelles différentes. Parce que ce qu'on voulait montrer, c'est que ces bonnes idées, ce bon sens, c'est pas forcément l'apanage des pays riches, des pays pauvres, des grosses entreprises ou des petites entreprises. C'est du bon sens. Donc on est tous capables d'être des artisans du changement. Parce que s'il y a vraiment un synonyme d'artisan du changement, c'est, on va dire, c'est l'artisan du bon sens. C'est l'artisan qui, finalement, ben, pour monter un mur, se rend bien compte qu'il doit faire d'abord de bonnes fondations. Puis c'est qu'après qu'il met le toit, vous voyez. Et dans notre monde à nous, on a l'impression que c'est d'abord le toit qu'on construit. Et puis qu'après, on se dit, tiens, on a oublié quelque chose.
Vous-même, pour aller filmer ces gens-là, vous avez monté votre structure de façon sobre. D'abord les murs, bien sûr, le toit après. Vous y arrivez ?
Aujourd'hui, oui. Enfin, on y arrive. Disons que le travail qu'on a fait se retrouve apprécié. Donc, on gagne une certaine crédibilité. C'est vrai que ça semblait un peu trop ambitieux. On s'est souvent entendu dire que une petite société comme nous, de province, on n'était que deux au début, un projet international, 20 heures de programme sur des chaînes. Aujourd'hui, cette série est vendue à l'international, il y a une quinzaine de pays qui diffusent la série. C'est quelque chose qui était inédit et trop ambitieux. Je ne sais pas ce que ça signifie, trop ambitieux. On a eu peut-être, un peu comme nos artisans du changement, la folie de croire que c'était possible. Et ben, on ne s'est pas trop pris la tête, on a tenté le coup. Et l'avantage de faire quelque chose auquel on croit et puis quelque chose qu'on fait aussi parce qu'on se dit que c'est pas qu'à nous que ça va profiter, mais que ça peut profiter à d'autres, c'est que tout autour de nous, plein de gens extrêmement intéressants, très sympathiques, se sont greffés et nous ont aidés à rendre ce projet possible. Et aujourd'hui, ben voilà, on y est.
Ça veut dire que maison de production et éthique, ça peut éventuellement fonctionner.
On n'a pas trop le choix. On a eu cette chance d'être suffisamment naïf pour faire les choses bien dès le début. On n'avait pas de mauvais exemples à suivre. Ça a été peut-être plus dur que certains, enfin je crois pas trop. Comme je vous le disais, on a tout de suite été aidés, même par les institutions comme le CNC, qui ont vraiment reconnu que notre démarche, même si elle n'était pas forcément académique, allait dans le bon sens. On a été soutenus, ça n'a pas empêché le travail, ça n'a pas empêché les doutes, on a eu de la chance aussi, hein, faut le dire. Mais oui, c'est tout à fait possible d'être éthique, et je pense qu'on gagne, pas forcément de l'argent, ça c'est sûr, en tout cas pas de l'argent de manière indécente, mais on peut vivre maintenant correctement, on n'est plus trop stressé sur les fins de mois. D'ailleurs, on ne sait pas si ça va durer, hein, mais qu'importe, c'est quelque chose qui est possible, et surtout, je pense qu'on a beaucoup plus d'amis que d'ennemis, et ça, je pense que ça vaut le coup.
C'est l'ange des recycleurs. Nous étions la voix du silence, mais maintenant, nous ne le sommes plus. Maintenant, nous existons. Et nous connaissons notre importance. Nous avons... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, j'ai un ego. Un ego qui fait que je n'ai pas honte que vous me filmiez. Ni moi, ni mes amis, ni rien. Parce que tout ceci est mon travail. Et qu'il est digne, propre. Pure, peut-être mieux qu'avant. Parce qu'avant, je sortais la nuit, et maintenant, je sors le jour. Je frappe aux portes, je suis à l'aise. Je parle avec les ménagères. J'essaie de faire de la sensibilisation. Parce que la pollution est en train de détruire le monde aujourd'hui. Et nous, on essaye de le sauver. Nous, les recycleurs.
Los recicladores.